Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 1h du matin à Port-Louis, à l'île Maurice. Il est 21h en temps universel et 23h à Paris. Et le journal est présenté par Maurice Limano. Matisse. Bonsoir Matisse.
Bonsoir Claudie, pas de soucis, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, que s'est-il passé près de la résidence de Donald Trump en Floride? Un homme a été arrêté, il est suspecté de tentative d'assassinat sur le candidat républicain à la présidentielle américaine. À Miami, David Thompson sur l'avancée de l'enquête. Ils sont 30 000 à vivre en Israël, les demandeurs d'asile africains. L'État hébreu recrute parmi eux pour combattre à Gaza, selon le journal israélien Haaretz, en contrepartie un droit de résidence permanent dans le pays. En visite à Rome, le Premier ministre britannique Keir Starmer, il a rendu hommage à la politique migratoire de Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, un éloge critiqué jusque dans son camp. Et puis cette année, le trou dans la couche d'ozone s'est ouvert plus tard. Est-ce une vraie bonne nouvelle? Réponse avec Pauline Glaise. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce soir, cette deuxième tentative d'assassinat sur Donald Trump en 2 mois. Un homme a été maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe de la propriété du candidat républicain. Donald Trump a accusé les démocrates. Le tireur aurait été incité à agir en raison des attaques lancées contre lui par Kamala Harris. Le tireur présumé comparaissait ce matin pour la première fois devant le tribunal de West Palm Beach en Floride. Aux États-Unis, David Thompson, le débat sur la sécurité de Donald Trump est relancé.
L'analyse du téléphone du suspect montre qu'il a passé plus de 11 heures sur place, caché dans les buissons à la lisière du golfe de Palm Beach, à attendre Donald Trump avec son fusil d'assaut AK-47. Lorsque l'agent du Secret Service le repère et ouvre le feu dans sa direction, Ryan Roos est à portée de tir de sa cible à 300, peut-être 400 mètres de lui. Comment cet individu est-il parvenu à s'approcher si près du candidat républicain? Comment a-t-il su que l'ancien président allait jouer au golf à ce moment précis, et ce, à 2 mois à peine de sa première tentative d'assassinat? Le débat sur les failles sécuritaires ne fait que commencer aux États-Unis. Aujourd'hui, dans sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump doit rencontrer le chef par intérim des Secret Service qui remplace l'ancienne chef de cette police de protection des hautes personnalités, elle-même poussée à la démission après les failles sécuritaires constatées lors de la première tentative d'assassinat de Trump durant son meeting de Butler en Pennsylvanie. De son côté, l'ancien président salue le travail du Secret Service qui est parvenu à faire fuir le suspect avant qu'il ne puisse ouvrir le feu. Le candidat républicain dénonce en revanche la rhétorique de sa rivale Kamala Harris qui aurait, selon lui, inciter le suspect à passer à l'acte. David Thompson, Miami RFI.
Le Secret Service qui affirme ce soir que le tireur présumé n'a pas tiré, contrairement aux affirmations de l'équipe de Donald Trump. De son côté, le ministre de la Justice promet de mettre tous les moyens dans l'enquête sur cette tentative d'assassinat. Ils sont 30 000 à vivre en Israël. Je vous le disais dans les titres, ce sont les demandeurs d'asile africains. L'État hébreu recrute parmi eux pour combattre à Gaza, selon le journal israélien Haaretz. En échange, l'obtention d'une résidence permanente dans le pays. Sous couvert d'anonymat, des responsables israéliens affirment que le projet est mené de manière organisée avec les conseillers juridiques du ministère de la Défense, mais en dehors de tout cadre éthique, écrit le journal. À Jérusalem, Sami Boukhalifa.
Tout commence le 7 octobre 2023 lors du massacre perpétré par le Hamas en Israël. Près de 1200 morts ce jour-là, parmi eux 3 demandeurs d'asile. Par la suite, le pays plonge dans le chaos. Il lance une guerre dévastatrice contre le Hamas et les Gazaouis. Près d'un an plus tard, plus de 41 000 Palestiniens tués, majoritairement des femmes et des enfants. Côté israélien, tout s'arrête. Une importante partie de la population est envoyée à l'armée. Cette mobilisation générale porte un coup d'arrêt brutal à l'activité économique. Les travailleurs étrangers quittent aussi massivement le territoire devenu trop dangereux. Ce sont alors des demandeurs d'asile qui se portent volontaires pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Certains expriment même le souhait de contribuer directement à l'effort de guerre. Émerge alors l'idée de les enrôler pour les envoyer à Gaza. 2 semaines d'entraînement, puis le front. C'est la naissance d'un groupe de mercenaires engagés dans une guerre effroyable et à qui on fait miroiter l'obtention d'une résidence permanente en Israël. À ce jour, aucun demandeur d'asile africain ne l'a encore obtenu, rapporte le journal Haaretz. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Par ailleurs, le Hamas s'est dit prêt à une longue guerre d'usure et assure que la résistance au Liban, à Gaza, en Irak et au Yémen vaincra Israël. Dans la bande de Gaza, la défense civile a fait état ce lundi d'au moins 18 morts et plusieurs blessés dans les frappes aériennes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le dernier bilan est de 41 226 morts. C'est un hommage inattendu en matière de politique migratoire, celui du Premier ministre britannique, un travailliste, rendu à la présidente du Conseil italienne, issue de l'extrême droite. En visite à Rome, Keir Starmer a salué les progrès remarquables de Giorgia Meloni dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Le Premier ministre s'est même dit intéressé par la méthode de son homologue italienne, qui a signé un accord controversé avec l'Albanie pour que ce pays accueille les migrants. Une déclaration qui intervient au lendemain d'un nouveau naufrage de migrants dans la Manche et alors que le Royaume-Uni se remet à peine de violentes émeutes fomentées par l'extrême droite cet été. À Londres, cet éloge de sa politique migratoire a été critiqué jusque dans le camp du Premier ministre. Correspondance Sarah Menaï.
Le programme pour le Rwanda était mort et enterré avant même d'avoir commencé. Il n'a jamais eu d'effet dissuasif. Ça a presque provoqué l'effet inverse. Je ne suis pas prêt à continuer avec des gadgets qui n'ont aucun effet dissuasif.
Le 5 juillet dernier, quelques heures seulement après la victoire historique du Parti travailliste, Keir Starmer a abandonné la controversée réforme dite du Rwanda, le plan défendu par les conservateurs qui prévoyait d'expulser les personnes entrées illégalement sur le sol britannique vers le pays est-africain. Mais deux mois après son élection, le Premier ministre britannique est à Rome, d'où il a loué l'accord conclu l'an dernier entre Giorgia Meloni et l'Albanie pour envoyer les demandeurs d'asile vers Tirana.
Vous avez fait des progrès remarquables en travaillant d'égal à égal avec les pays se trouvant sur les routes migratoires afin de traiter à la source les facteurs de la migration et de contrer les réseaux.
Alors aujourd'hui, la visite d'État du travailliste Starmer en terre mélonienne passe mal. Élus et ONG accusent Starmer de chercher à copier l'extrême droite sur l'immigration. Une députée travailliste juge inquiétant qu'il cherche à tirer des leçons d'un gouvernement néo-fasciste, en particulier après les émeutes anti-réfugiés qui ont balayé la Grande-Bretagne cet été. Aujourd'hui, les Britanniques se méfient de qui s'inspire leur nouveau Premier ministre et avec qui ils comptent lier des amitiés ces 5 prochaines années. Sarah Menaï, Londres, RFI.
L'actualité migratoire nous emmène aussi en Allemagne, qui a renforcé ce lundi et pour 6 mois les contrôles à ses frontières. L'objectif, lutter contre l'immigration irrégulière. Une décision prise alors que l'extrême droite gagne du terrain aux élections régionales et que le pays est meurtri par l'attentat de Solingen. Il y a un mois, il a fait 3 morts et 8 blessés. Avec ces contrôles, l'Allemagne va à l'encontre du principe européen de libre circulation. Le pays partage des frontières avec 9 autres États. Ce lundi 16 septembre, c'est la journée internationale de la couche d'ozone. Cette partie de l'atmosphère nous préserve des rayons UV du soleil. Elle a été malmenée par l'activité humaine. Le trou dans la couche d'ozone, qui se reforme chaque année au-dessus de l'Antarctique, s'est ouvert plus tard que d'habitude cette année, vers la fin août, avec quelques semaines de retard. Mais la bataille est-elle gagnée pour autant ? Élément de réponse avec Pauline Glaise.
Cette arrivée tardive est due, selon l'observatoire européen Copernicus, à 2 épisodes de chaleur dans la stratosphère en juillet et août. Ce phénomène très rare au-dessus du pôle sud a eu un impact sur l'ozone. Avec la chaleur, les vents tournent moins fort au-dessus du pôle. Il y a donc moins de CFC, ces gaz responsables de l'appauvrissement de l'ozone, emprisonnés au même endroit. Mais cela ne veut pas forcément dire que le problème est réglé. En fait, il faudra des décennies pour que la quantité de CFC revienne à son niveau pré-industriel. L'état de la couche d'ozone pourrait s'améliorer d'ici une 40aine d'années. C'est lointain, mais le protocole de Montréal interdisant l'utilisation des CFC est déjà considéré comme un succès. Il a permis d'empêcher un aggravement de la situation. L'ONU est, elle, encore plus positive sur l'impact de cet accord international. Elle appelle d'ailleurs tous les États à ratifier l'amendement de Kigali. Il ajoute une autre famille, les hydrofluorocarbones, à la liste des gaz à éliminer. Ces HFC sont de puissants gaz à effet de serre. Une pleine application permettrait d'éviter 0,5 degré d'augmentation des températures.
Pauline Glaise. Un paysage de désolation et un cauchemar selon les victimes. La tempête Boris continue de balayer l'Europe centrale. Au moins 18 morts, des milliers de sinistrés et d'immenses dégâts, encore difficiles à estimer. Roumanie, Autriche, République tchèque, Pologne, des pluies incessantes s'abattent depuis vendredi et le calvaire n'est pas fini, d'après les scientifiques. Il est presque 23h10 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Retour de l'information dans 50 minutes.